Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, l'émission Quoi de Neuf, comme chaque mercredi entre 16h et 18h. Radio Campus, c'est aussi campusville.com et le DAB+ sur la métropole lilloise. Dernière séquence de cette émission, j'allais dire quatrième partie, elle nous emmènera dans l'univers passionnant de la photographie. Sujet plus précis aujourd'hui, plusieurs d'ailleurs, avec l'actualité de la photographie à l'Université de Lille, une exposition en préparation, la botaniste et ses modèles. Et puis on parlera de quelque chose d'assez étonnant et on va dire d'exclusif d'une certaine manière, puisqu'on présentera radiophoniquement 15 objets très rares appelés les vues lippmanniennes. Bonne écoute de Radio Campus. J'ai le grand plaisir d'accueillir à ce micro Sophie Brown, qui est chargée du patrimoine scientifique de l'Université de Lille. Bonjour Sophie.
Bonjour René.
Et Bernard Dupont, président de la Société photographique des universités de Lille. Bonjour Bernard.
Bonjour René, alors, de nous avoir invités.
C'est un grand plaisir. Donc Bernard, peut-être qu'on peut commencer par présenter la Société photographique des universités de Lille. Voilà, donc il y a quelque chose.
Eh bien, nous fêtons un anniversaire puisque nous entamons notre huitième année d'existence, donc un septennat est passé. Et le bilan des sept années qui viennent de s'écouler était intéressant. Il s'agissait de réintroduire la photographie amateur dans un sens noble du terme à l'origine sur un campus scientifique et puis par extension sur tous les campus qui se sont agglutinés autour. De l'ex-université de Lille 1 et maintenant de l'université de Lille, mais aussi avec intervention parfois sur l'université catholique de Lille, ce qui fait que vraiment nous représentons une société photographique des universités de Lille.
Donc l'actualité de la SPUL et comme de l'université, c'est une préparation d'une exposition particulière où la botanique est à l'honneur, Bernard.
Oui, la botanique est à l'honneur, c'est aussi la science qui est à l'honneur. Et c'est la raison pour laquelle se trouve ici Sophie Brown, hein, qui représente le patrimoine scientifique de l'université, sur un projet tout à fait inédit. Je dois dire que dans ma carrière de photographe, je n'avais jamais eu la possibilité de mettre mon doigt dans un pareil projet.
Alors, j'ai pu assister, on va dire, à des présentations de ces objets dont on va parler maintenant avec Sophie Brown. Donc Sophie, des objets très particuliers qui sont des objets d'études, on va dire, au départ.
Oui, le point de départ de ce projet d'exposition, c'est une collection d'objets physiques, de modèles didactiques plus particulièrement, qui à l'origine sont donc des collections d'enseignement. Ici, en l'occurrence, de botanique, donc des modèles de plantes ou de détails agrandis pour en fait l'étude de la floristique. Et ces objets datent pour la plupart de 1900 et avaient été créés par l'entreprise Brendel, une entreprise allemande et acquise par l'Université Lille. Et là, en l'occurrence, plus particulièrement, la chaire de botanique pour l'enseignement de l'anatomie des végétaux.
Donc ces objets-là, ils ont quelle taille ?
Pour la plupart, ils font à peu près de 20 à 30 cm de haut. Et donc là, nous les avons numérisés pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Et c'est à partir des numérisations réalisées par le service, la direction de l'innovation pédagogique de l'université, que nous avons obtenu des photographies sous plusieurs angles. Et donc, dans ce panel d'angles multiples de ces modèles pédagogiques, la SPUL a fait une sélection et une proposition pour les mettre en valeur autrement.
Donc, je vais dire, entre l'objet de base, sa représentation en 3D avec les technologies dont vous disposez à l'Université de Lille, et le regard, ou un certain regard, ou des regards de photographes, on aura une exposition qui sera présentée.
Voilà, une exposition tout à fait atypique qui aura lieu du 15 janvier au 21 février à l'Espace Culture. Et dans cette exposition, il y aura possibilité d'observer quand même les modèles originaux Brendel de la collection conservée au département biologie.
Alors, ces objets de départ, hein, on va dire objets d'étude pour des étudiants et présentés par des professeurs qui font étudier ces personnes à partir de choses concrètes pour en déduire, je ne sais pas exactement quoi d'ailleurs.
Donc là, c'est vraiment l'étude de l'anatomie pour la floristique. Et certains modèles sont d'ailleurs encore utilisés par certains enseignants en cours parce qu'ils sont bien plus représentatifs et visuels que des diaporamas présentés en amphithéâtre.
Est-ce que chaque modèle correspond à une plante réelle ?
Oui, à chaque fois, ce sont en fait des représentations issues de la nature et même d'observations microscopiques de la nature.
Donc dans le détail, la précision ?
Voilà, vraiment, c'est le détail, comprendre à la fois l'anatomie, mais aussi l'intérieur, donc la physiologie de la plante.
Donc, il y a une partie externe, on va dire, de l'œil, hein, mais est-ce qu'il y a aussi des aspects en tranche ou...
Tout à fait, et c'est vrai que ce que je n'ai pas précisé, que c'est la spécificité de ces modèles, c'est qu'ils sont démontables. Donc, ce sont des modèles en papier mâché. Bon, il existe d'autres matériaux selon les parties Brendel a voulu représenter. Mais en tout cas, voilà, on peut soit observer des coupes, soit vraiment détailler plusieurs parties et prélever plusieurs parties sur la plante pour regarder où se situe telle ou telle partie que l'enseignant souhaite transmettre à l'élève.
Donc des générations d'étudiants sont succédées autour de l'observation de ces objets pour travailler, comprendre la matière, je ne vais pas dire humaine, hein, la végétale pour le coup.
Oui, tout à fait. Et en fait, ces objets ont été vraiment utilisés jusqu'au déménagement des facultés. Donc la chaire de botanique se trouvait au niveau de la rue Malus, donc là où se trouve le musée d'histoire naturelle de Lille. Mmh. Et au déménagement à la cité scientifique, ces modèles ont été un petit peu oubliés. Et là, c'est vrai que je remercie le travail de Marie-Hélène Boucher, Corinne Becquet et Cathy Vauban, qui en fait ont vraiment remis au jour cette collection, l'ont nettoyée et ensemble on a fait un travail d'inventaire. Donc au département biologie, il y a plus de 200 modèles Brendel, donc qui en fait progressivement sont devenus une collection patrimoniale donc de l'université.
Alors c'est vrai que dans l'université, j'ai eu l'occasion de voir des objets de collection que j'ai vu au musée des Beaux-Arts, au Palais des Beaux-Arts, et d'autres qu'on peut voir là, ou qu'on va voir là, dans d'autres lieux, au musée donc aussi des sciences, donc de l'histoire naturelle de Lille. Quel est le lien entre ces lieux universitaires, que sont les universités avec leurs collections, et des lieux qui peuvent les accueillir, voire les mettre en valeur? Comment se passent un petit peu les choses entre les deux types de structures pour des échanges dont bénéficie en général le public?
Alors pour ce qui est du lien entre historiquement la Faculté des sciences de Lille et le Musée d'histoire naturelle de Lille, le lien est assez fort puisqu'en fait certains professeurs étaient les personnes chargées de mettre en œuvre le musée. Tout ça se passait dans le même bâtiment qui était l'Institut des sciences naturelles de Lille. Donc tout ça au moment de l'ancienne Université de Lille vers 1895. Tout ça s'est mis en place. Par contre, il y avait effectivement des crédits municipaux et des crédits universitaires qui font que certaines collections appartiennent à la ville de Lille et d'autres collections à l'université. Mais il y a toujours eu des liens très forts donc, entre les chercheurs et les agents du musée, voire parfois il s'agissait de la même personne, historiquement bien sûr. Donc aujourd'hui, hormis une collection d'instruments scientifiques qui est encore un dépôt, donc qui contient 200 objets issus de l'ancien Institut de physique de Lille, tout ce qui est conservé au musée d'histoire naturelle de Lille lui appartient, mais bien sûr nous travaillons ensemble lorsque nous avons des projets de valorisation communs. Pour ce qui est du Palais des Beaux-Arts de Lille, en tout cas sur les collections que je traite, là nous avons aussi un dépôt, il s'agit de la collection d'égyptologie de l'université. Mais des fois, effectivement, il y a des prêts d'objets et voilà, nous travaillons en bonne entente avec ces deux institutions particulièrement.
Est-ce que ces objets, voire ces œuvres, je ne sais pas comment on peut voir les choses avec le temps, est-ce que ces objets ont quelque chose qu'on peut apparenter à des œuvres artistiques d'ailleurs ?
C'est un petit peu l'objet justement de l'exposition, c'est comment l'objet... L'usage de l'objet a évolué, donc passer d'un objet d'enseignement à un objet patrimonial. Et là, ce qu'on voulait montrer aussi, c'est passer un petit peu d'une image scientifique à une image artistique avec cette exposition.
Voilà, donc Bernard Dupont, comment le photographe, quelque part qui a une âme d'artiste, j'imagine, s'empare de ce sujet ?
Je pense qu'il faut tout de suite dire qu'il y a deux aspects à ta question. Le premier aspect, qui est bien décrit par un auteur qui est professeur à la Sorbonne, qui est professeur d'histoire de l'art, et en particulier de la photographie, c'est qu'il met au défi quiconque de regarder longuement une photographie scientifique sans qu'au bout d'un certain moment, on y voit un objet beau, esthétique. Il existe donc un point sur une ligne à partir du moment où on peut dire qu'il y a un basculement de l'ordre pédagogique ou de l'ordre de la recherche scientifique, où on bascule dans un monde, comme disait Bachelard, de rêve, de rêverie, d'onirisme. Et c'est exactement ce qui se passe avec ces modèles de Brendel, qui sont des reproductions de plantes, même des plantes relativement banales parfois, mais qui nous permettent, lorsqu'on les agrandit, lorsqu'on voit des détails que l'œil humain ne peut pas voir, mais que l'objectif montre bien, de montrer que l'on plonge dans un univers qui est beau, qui nous permet de rêver, d'être poète parfois. Ce qui fait qu'un auteur allemand, un photographe allemand, là, Karl Blossfeld, très très tôt, et qui était probablement lui aussi un créateur de modèles chez Brendel, a décidé de faire de la photographie des plantes en studio, en montrant qu'on pouvait mettre en majesté des végétaux, en dehors de le contexte qui est celui de la nature, de les mettre en studio et d'y retrouver un certain nombre de formes. Ce qui me permet d'arriver à la deuxième idée. C'est quoi finalement la photographie scientifique pour la recherche esthétique ? C'est, nous dit-on, nous dit Michel Poivert en particulier, un réservoir de formes. Des formes que l'on ne voit pas dans l'univers qui nous entoure avec nos yeux, à notre taille humaine, mais ces formes qui apparaissent toutes naturellement lorsqu'on y met un agrandissement ou lorsqu'on regarde l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Et c'est là où ça devient fabuleux.
Alors, c'est vrai qu'il y a l'objectif du photographe et puis il y a l'objectif du photographe.
Oui.
Alors,
ici, le travail qu'a dû réaliser la spule est un peu particulier. D'une part, nous n'avons pas eu à prendre des photographies, de faire la prise de vue à proprement parler. On nous a livré un matériau, l'université nous a livré un matériau qui est un ensemble de plusieurs dizaines, voire centaines de photographies en 3D, trois dimensions. C'est-à-dire qu'on a une idée de leur relief. Ce qui veut dire que chaque plante présentée a fait l'objet d'un travail de prise de vue qui se monte à 80, voire 100 photos pour un objet particulier. Travail remarquable, d'ailleurs mené dans le département de sciences naturelles par deux personnes dont j'aimerais bien donner le nom à l'antenne. Il s'agit des deux Bernard qui sont connus sur le campus, Bernard Mikolajczyk et Bernard Deleplanque, qui ont passé une bonne partie de leur temps à faire ces dizaines et dizaines de photos sur chaque végétal.
Donc, est-ce que ces objets en 3D, on peut on les voir à 360 degrés en faisant le tour complet, ou est-ce qu'ils sont en 3D par un effet un petit peu artificiel ?
Il n'y a pas d'effet artificiel. Ils travaillent avec un matériel qui, à mon avis, était financé pour partie par la DRAC ou partie par l'université. C'est un dispositif très très lourd avec des potences. Plusieurs appareils photo prennent à des angles de vue différents. Un objet qui est placé sur une table tournante avec un moteur qui s'arrête tous les 10 degrés et on prend des photos. et la totalité des photos permet de créer une sphère dans laquelle on va trouver des angles de vue particuliers. Le travail à la SPUL a été de repérer les angles de vue qui sont les plus intéressants et qui relèvent de catégories poétique, onirique, dont je parlais tout à l'heure, et qu'avait mis en évidence cet auteur allemand dont je parlais tout à l'heure, Karl Blosfeld, et on trouve en particulier, et on ne peut pas s'empêcher de voir dans certaines fleurs, par exemple des joyaux, on ne peut pas s'empêcher dans certains cas de voir des masques apparaître, on ne peut pas s'empêcher de voir des photographies qui relèvent de l'abstraction pure, donc des abstraites. Et aussi, je pense, la catégorie la plus belle, et je reprends telle quelle la traduction allemande d'un terme, ce sont des photographies qu'on appellera les troublantes. Certaines plantes sont très troublantes. Le cacaoyer, par exemple.
Par exemple, oui. Donc, aussi, l'interprétation qu'on fait de ce qu'on voit, c'est important, l'œil du photographe.
Oui, tout à fait. Tout à fait déterminant. C'est ce qui tend à montrer qu'on a vraiment quitté le terrain de la pédagogie, de la didactique, le terrain de la science, pour aborder un terrain qui est celui, du moins j'espère, de critères qui sont objectifs dans le domaine de l'esthétique.
Alors, objectif, mais est-ce que chaque photographe a son approche particulière de l'œuvre qu'il va mettre en valeur au travers de son travail ?
On a essayé de gommer la subjectivité en travaillant en groupe, comme d'habitude, à l'intérieur de la SPUL. La société photographique a mobilisé un certain nombre de photographes sur ce projet. Et c'est au terme de discussions, parfois animées, qu'on a pu faire un repérage de plantes qui relevaient des catégories dont j'ai parlé tout à l'heure.
Voilà, donc l'exposition s'appellera « Le botaniste et ses modèles ». Est-ce qu'il y a encore une précision ou deux qu'on peut donner par rapport à cette exposition ?
Oui, par rapport au projet de numérisation, je souhaitais juste préciser que les modèles didactiques Brendel sont visibles en ligne sur la plateforme Photo 3D, donc qu'anime Bernard Deleplanc et Bernard Mikolasic. Et c'est effectivement grâce à un soutien financier de la Direction régionale des affaires culturelles que nous avons numérisé ces objets, parmi d'autres. Et nous avons aussi décidé de mettre le projet photographique de la SPUL en regard avec une artiste contemporaine qui s'appelle Mathilde Nardon et qui donc sera accueillie dans l'exposition. Donc c'est une jeune artiste de 25 ans et elle inscrit son travail dans une recherche, une approche photographique particulière par scanner. Et donc elle propose cette technique comme médium de réalisation d'images à part entière, et cette démarche lui permet de projeter des fleurs traitées à la manière de nature morte dans le monde contemporain. Donc nous allons vraiment faire une mise en regard des deux approches artistiques autour de la botanique.
Donc cette exposition, on va rappeler les dates, le lieu.
Donc elle aura lieu du 15 janvier au 21 février 2020 à l'Espace Culture de l'Université de Lille, sur le campus Cité Scientifique.
Et est-ce qu'elle est éventuellement destinée à diffuser par ailleurs ?
Oui, nous avons pour projet ensuite de la rendre itinérante, mais là nous sommes encore dans les discussions pour les lieux d'accueil, mais on a particulièrement pensé à la pharmacie, puisqu'une collection similaire existe à la faculté de pharmacie de Lille, également pour l'enseignement de la botanique et de la mycologie.
Voilà, on se retrouve dans quelques instants, Sophie Braun et Bernard Dupont, pour la présentation de quelque chose d'assez étonnant et qui, moi, m'a un peu fasciné, disons les choses, 15 photochromes de Lippmann à Lille, conservés donc par l'Université de Lille. Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, émission Quoi de Neuf jusqu'à 18h, comme chaque mercredi, entre 16h donc et 18h. Et cette séquence, quatrième partie, on va aboutir à un sujet qui est assez étonnant, vous allez, je pense, le remarquer, de présentation d'objets inédits et qui sont... Donc, je vous l'ai un petit peu annoncé tout à l'heure, hein, des œuvres, on va dire, de photographies interférentielles révélées par Lippmann en 1891. Alors, avant de commencer cette séquence sur la photographie interférentielle révélée par Lippmann en 1891, je voudrais demander à Bernard Dupont, qui est un spécialiste de la photo, historien même de la photo, quel était le contexte photographique à cette époque ?
Le contexte, c'est la couleur, tout simplement. Dès l'origine de la photographie, on a cherché à capter trois choses. C'était l'objectif de la photographie. Représenter les formes des objets ou du sujet. Deuxièmement, représenter ses couleurs. Et on était à la recherche de la substance qui aurait permis de reproduire toutes les couleurs possibles. Et on oublie toujours le troisième objectif donné à la photo dès le départ. Hein, on est dans les années 1820. Le relief, la 3D. Or, de nos jours, tout ça va presque de soi, mais pas tant que ça, finalement. Ici, en 1891, on a une période où deux grandes théories vont se disputer l'honneur de devenir la pionnière dans le domaine de la photographie des couleurs. D'une part, ce qu'on appelle la méthode interférentielle mise au point par Gabriel Lippmann dès 1891, mais aussi dans un contexte où il semble que les milieux, certains milieux scientifiques, mais surtout les milieux industriels, recherchent le secret de la récupération des couleurs à l'aide de trois filtres qu'on appelle le rouge, le vert et le bleu, qui, par composition, permettent de retrouver approximativement les couleurs. Donc on a clairement, on a deux visions, une vision plutôt industrielle, approximative, que l'on retrouve de nos jours quand on rentre dans un magasin où il y a des écrans de télévision où on se rend compte qu'il n'y a pas les mêmes couleurs. Eh bien oui, c'est inhérent à la nature du système qu'on appelle trichrome. Et puis une vision de physicien qui consiste à dire la couleur c'est quoi ? On vient de comprendre à la fin du 19e siècle que ce est une onde lumineuse. Ce sont donc des ondes, au même titre que les ondes sonores qu'on est en train d'utiliser en ce moment. Donc il y a peut-être la possibilité d'enregistrer ces ondes particulières, les ondes lumineuses, et de les restituer dans un second temps, comme Edison aux États-Unis avait réussi à enregistrer la voix humaine et de la restituer.
D'accord. Alors, on peut dire que ce qui est regardé actuellement sur les écrans, même en LED, j'imagine, c'est une illusion de couleur.
Tout à fait. C'est une illusion qui est basée sur le fait que l'œil humain, finalement, il n'est pas trop regardant sur la qualité même de la couleur et de sa définition précise. On se contente beaucoup d'approximations. Ce que dit Lippmann, mais ce n'est pas possible. Si c'est une onde, elle a des caractéristiques physiques très très précises. Et donc c'est celle-là que je veux restituer.
Alors, j'irai même plus loin. Est-ce qu'un animal doté d'une vision différente voit les mêmes choses dans les couleurs selon l'écran ou selon les objets de Lippmann ?
Tout à fait. Un animal va tomber dans le même travers que nous. La question d'un Lippmann, c'est d'essayer d'évacuer la question de la nature des yeux, mais de capter ce qu'est intrinsèquement une onde.
Et ces ondes, en plus de les conserver presque indéfiniment, j'allais dire ?
Indéfiniment. Indéfiniment. Quitte à anticiper, un photochrome de Lippmann retrouvé à Lille récemment restitue la couleur de la prise de vue. Et donc, on est 120 ans en arrière. Et donc, c'est la couleur telle qu'elle s'est présentée il y a 120 ans.
Et donc, quand on dit la couleur, c'est une onde.
La couleur est une onde.
Voilà. Donc, cette couleur-là qui est enfermée...
Qui est enfermée. Et qui est gelée à l'intérieur de deux plaques de verre.
Donc, on observe une onde, c'est ça.
Et... on n'observe pas avec nos yeux, mais il est possible de restituer les couleurs primitives grâce à des dispositifs particuliers de projection.
D'accord. Alors, le problème de cette conservation et de cette visibilité, cette mise en visibilité de ces ondes-là et de peut-être les interpréter d'une autre manière, c'est peut-être trois choses qu'on peut aborder maintenant dans le cadre donc de notre réflexion sur la photographie interférentielle donc dite de Lippmann. D'abord, est-ce que Lippmann est le seul à avoir conçu ce type d'onde ou est-ce qu'il y a eu d'autres personnes au même moment qui ont eu la même idée ?
Non, il est le seul. Et c'est à ce titre qu'il a reçu le prix Nobel en 1908. C'est pour son apport à la photographie des couleurs. C'est d'ailleurs le seul prix Nobel de physique qui a été primé pour ses recherches dans le domaine de la photographie. Il n'y en a pas d'autres.
Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il a été primé alors que la technologie était très vite abandonnée.
Et qui a été très vite abandonné dans le monde de l'industrie, oui. D'accord. Et donc, pas dans le domaine de la recherche.
Voilà, donc on en est où maintenant ?
Actuellement, on est face à un serpent de mer, une idée géniale, l'idée de geler, de mettre en prison la lumière. C'est quelque chose qui est absolument fascinant. Mais il y a derrière une réelle difficulté technique, c'est-à-dire de réaliser cet emprisonnement, parce qu'elle repose sur une méthode interférentielle qui veut qu'on a un train d'onde qui doit rebondir sur une berge, ici en l'occurrence une paroi de mercure, et revenir en arrière. Et le fait que deux ondes de sens contraire se rencontrent crée un phénomène qu'on appelle la stationarisation dans le domaine des mathématiques et de la physique. Donc les ondes sont gelées par ce phénomène de rebondissement. Et ensuite, il suffit de trouver simplement la substance qui va permettre d'attraper les ondes au moment où elles sont gelées. Et cette substance est une substance chimique et non plus physique, et c'est celle-là qui fait problème.
Alors, ton intérêt personnel à aller rechercher ça, ces choses, ces techniques, ces objets, j'allais dire, uniques, d'une certaine manière, bien qu'il y en ait combien en tout dans le monde ?
Dans le monde, au grand maximum, il n'y en a pas 200, en fait.
Mm-hmm. Et à Lille, ici, à l'université ?
Ici, à Lille, on en a retrouvé 15.
15. C'est un bon échantillon.
Énorme échantillon. Énorme, hein. Je pense qu'on peut le classer d'entrée de jeu comme le troisième échantillon au monde.
Alors, dans ces 15, est-ce qu'il y a des couleurs très différentes ?
Ah oui, tout à fait. Hein. On est dans un champ expérimental où on veut absolument prouver que par cette méthode, il est possible de capter tout ce qu'on peut imaginer en termes de patchwork de couleurs, donc des bouquets de fleurs absolument superbes et magnifiques, des paysages chatoyants avec toutes les couleurs à toutes les heures du jour et de la nuit. Non, pas de la nuit, excusez-moi, c'est un peu plus difficile. Du jour, en tout cas. Et ensuite, la chose la plus difficile, il faut quand même citer les limites de ce procédé, c'est des portraits. Ici, à Lille, on a une particularité, on a des portraits, ce qui n'est guère possible avec ce procédé, qui demandait entre 2 minutes et un quart d'heure, voire une demi-heure de temps de pause.
Alors, une question bête, hein, en son, il y a, au-delà de ce qu'on entend, bien... Il y a des ultrasons et des infrasons.
C'est ça.
Et en lumière, comment ça se passe ?
En lumière, en dessous des violets, au-dessus des violets, il y a des ultraviolets, en dessous des rouges, il y a des infrarouges. Mais on les capte aussi, mais on ne les verra pas.
Donc, à la limite, ces œuvres de Lippmann, enfin, ces techniques-là, on peut aussi capter ces ondes-là.
Oui.
Théoriquement.
Oui. Même si on ne les verra jamais. Il y a une partie du champ des infrarouges qui est captée. Et une partie des ultraviolets qui est captée aussi. Tout dépend de la substance chimique qu'on utilise au moment où on gèle la lumière.
Voilà. Donc, on revient à cette période, hein, on va dire 1891. Les technologies à l'époque, elles n'étaient pas ce qu'elles étaient maintenant. Quels sont les grands progrès qu'on a pu faire depuis et qui pourraient servir ces technologies de cette époque-là ?
La technologie basée sur cette méthode interférentielle, la cause des interférences lumineuses, a un destin très très singulier. Lippmann a eu le prix Nobel et très rapidement a cherché à faire mieux encore que ces photographies où on gèle la lumière. Il a essayé de geler la lumière à un autre niveau. Il a essayé de recréer non seulement la couleur mais également le relief. Et pour tout le monde, Lippmann est l'ancêtre de l'holographie. Donc la représentation parfaite en 3 dimensions d'un sujet. Donc la forme, la couleur et aussi le relief. Alors, ces expériences sont très très difficiles à mener. Je crois qu'il a laissé un article où il disait qu'il ne pouvait réaliser une expérience à condition de disposer de 1500 appareils photo simultanément, ce qui à l'époque était un bel exploit, sachant qu'on avait plutôt des appareils qui étaient des chambres absolument énormes. Voilà, mais le principe était lancé. Sur le plan théorique, oui, il est parfaitement possible de créer des hologrammes en couleur avec les procédés qu'il nous a laissés. Alors bien entendu, la réalisation technique fait problème et on voit réapparaître régulièrement des tentatives d'holographie. Il y a eu une belle exposition organisée ici sur les hologrammes l'année dernière. Mais on sent bien que la 3D n'est pas encore pour demain. Et par exemple, dans le cinéma, on a vu il y a quelques années un engouement pour la 3D, et cet engouement est en train de passer un peu de mode, jusqu'à ce qu'on trouve à nouveau une formule qui permette de continuer à avancer dans la représentation du relief.
Par contre, là, à l'Espace Culture, en ce moment, il y a cette exposition sur l'habitat préhistorique, où on voit en 3D, des choses fabuleuses qui simulent la réalité.
Tout à fait.
Et dans laquelle on est intégré, où on vit les situations de ces personnes de la préhistoire. Ouais.
C'est sans doute notre époque qui va trouver des solutions qu'on se posait il y a 110 ans, 120 ans. C'est à espérer, hein. Et tout ça est basé sur les travaux de Gabriel Lippmann, ça, sans aucune discussion. Il y avait un autre aspect de la question sur laquelle je me permets de rebondir. Il a le prix Nobel en 1908, et au même moment, en 1907, les frères Lumière mettent en vente l'autochrome, l'ennemi, le système avec trichrome, donc avec un treillis d'éléments microscopiques qui vont sélectionner la lumière, rouge, vert, bleu, à l'intérieur des autochromes, et qui vont représenter un monopole pendant pas mal de temps. Et ensuite, la reprise du problème par Eastman Kodak, une entreprise américaine qui va proposer pratiquement la même chose, mais sur pellicule. Et ça fait avancer beaucoup les choses, mais ça a permis de démocratiser la photographie couleur. Et Kodak est devenu le monopole qu'on a connu, détrôné maintenant, parce que nous sommes passés dans un autre monde en photographique, et on abandonne l'argentique au profit du numérique. Mais notez que dans le numérique, les procédés sont les mêmes. On est encore en trichrome, alors qu'on n'en a pas forcément besoin.
Donc l'histoire de la science est un temps long, et dans ce temps long, il y a des périodes et peut-être des choses, hein, des concepts qui sont posés à un moment donné et repris par la suite quand on y retrouve soit un sujet d'inspiration, soit une technologie capable de réexploiter, on va dire, le travail de l'époque pour l'amener à un intérêt collectif.
Tu as parfaitement raison. La limite du travail d'Alan Lippmann, et les limites sont chimiques, elles ne sont pas physiques. Sur le plan physique, il n'y a pas de problème. On a ici, sur le campus, suffisamment de gens extrêmement brillants dans la physique qui ont eu envie de travailler un peu sur cette découverte en essayant de retrouver la démarche scientifique qui est derrière. Elle est absolument impeccable. On peut même la réinterpréter à l'aide des concepts modernes. Ça n'y change strictement rien. Sur le plan chimique, c'est une toute autre histoire. Et il y a fort à parier que les moyens technologiques dont on dispose avec le numérique vont pallier ces questions chimiques.
Alors, on a parlé de deux personnes. On peut peut-être redonner leur nom. Il y a Cuve Contamine, c'est ça, hein, et Auguste Ponceau.
Alors, deux Lillois et ce n'est pas un hasard, font partie d'un groupe lillois qui est dévoué à la cause de Gabriel Lippmann, qui est professeur à la Sorbonne à Paris, mais il a des affidés un petit peu partout, enfin pas partout en France, dans quelques universités, et à la faculté des sciences de Lille, il y a eu un groupe de personnes qui s'est dévoué corps et âme pour faire avancer la technologie de Lippmannienne. Alors sur le fameux, à la prise de vue, il y a fait ce problème d'une couche de mercure. Donc Contamine, qui est un architecte lillois, mais qui voulait absolument que, pour les besoins de sa clientèle, produire des photographies en couleur, avait décidé d'améliorer le procédé Lyman et a mis au point la cuve Contamine. Cet architecte est très connu à Lille. C'est celui qui a construit le Palais Rameau, que tous les, les Lillois connaissent.
Qui va être en rénovation bientôt, là.
Oui, oui. Mais, et bon, c'est un peu un cas particulier. C'est un architecte qui avait besoin de particulier, mais on a des groupes de scientifiques, des physiciens, qui travaillent la question, et Lippmann, à Paris, décide d'envoyer un de ses, caporaux à Lille en disant « il y a un poste là-bas de maître de conférence à prendre », et il s'appelle Auguste Ponceau. Et là, je vais passer la parole à Sophie, parce qu'elle connaît bien mieux Sophie. Sophie connaît bien mieux les aventures d'Auguste Ponceau à Lille que moi.
Auguste Ponceau, 1906, à peu près l'époque, c'est ça ?
Oui, c'est à peu près ça. Donc, il arrive à la Faculté des sciences, plus particulièrement à l'Institut de physique de Lille en 1904. Et il sera là chargé d'un cours de physique et il, en parallèle, travaillera à diffuser et améliorer le procédé mis en place par Gabriel Lippmann, qui a d'ailleurs été un de ses professeurs à la Sorbonne. Et donc, finalement, de remettre en contexte ce personnage par rapport à l'histoire de Lille et de l'université nous permet de comprendre la présence de ces plaques chez nous. Et donc, ces 15 plaques, voilà, sont issues de tous ces travaux de l'Institut de physique de Lille sur la photographie, qui avait déjà commencé avec la stéréoscopie et d'autres procédés. Et que là, sur les couleurs, il y a effectivement eu apparemment, on cherche encore des informations, hein, mais un engouement pour le procédé de Gabriel Lippmann, mis en place voilà, à Lille autour d'Auguste Ponceau, avec peut-être aussi le chef de travaux pratiques de l'Institut qui s'appelait René Payot, et peut-être même d'autres personnages de la Société photographique de Lille. Donc c'est vrai que là, nous essayons de remettre vraiment en contexte la création des plaques que nous conservons à l'ASAP, qui est l'Association de solidarité des anciens personnels. Donc il faut effectivement remercier tous ces anciens qui ont sauvegardé ces objets rares, parfois sans même en connaître toujours la valeur. Certains, oui. Et là, c'est vrai qu'on a eu l'opportunité de vraiment faire des recherches et de s'y intéresser à plusieurs, avec chacun un angle de vue, que ce soit l'histoire, la science, la connaissance un peu du fond de la physique. Et donc finalement, c'est vrai que notre souhait actuel, c'est vraiment de comprendre le contexte et de valoriser au mieux ce fond par la suite.
Donc, quand on parle de contexte, si on replonge au début du XXe siècle, Bernard Dupont, est-ce qu'à l'époque, par rapport à ces technologies différentes, ces approches différentes de ce que peut être une couleur et une restitution d'une couleur, ou voilà, est-ce qu'il y avait des écoles différentes qui s'opposaient peut-être dans nos universités, pas forcément dans la même université, mais entre universités, des combats de titans ?
Eh bien non. Je n'ai dans la littérature trouvé aucune trace de débats vifs, de controverses. Chacun suit sa route et comprend même l'intérêt de l'autre pour l'autre méthode. C'est des choses qui peuvent nous sembler étonnantes, mais en tout cas dans le milieu français, on est content que globalement la science et les technologies avancent. Voilà. Et il n'y a pas cette notion de concurrence que l'on pourrait trouver à d'autres temps et dans d'autres pays. Je pense à l'Angleterre en particulier. Non, en France, on comprend. On comprend les autres. Et je pense que même Gabriel Lippmann avait une correspondance tout à fait régulière avec les frères Lumière, alors que ce sont, sur le plan industriel, les concurrents directs, en disant « Oui, c'est très bien ce que vous faites, vous avancez, c'est pas trop mal, je vous félicite ».
Voilà. Alors après, on pourrait parler actuellement de tout ce qu'on dit sur le piratage industriel, etc. Ce serait l'objet d'un notre sujet, peut-être passionnant, peut-être aussi dans la photographie, puisqu'il y a des enjeux énormes en photographie, et les avancées technologiques et leur appropriation, notamment par le grand public, celui souvent qui paye d'ailleurs les investissements dont les professionnels bénéficient.
Oui.
Merci donc pour toutes ces informations. On va pour conclure, faire un appel à nos auditeurs. Donc, on a bien compris qu'on avait à Lille des choses fabuleuses, mais on a 15 photochromes et pas les 200. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'avoir d'autres photochromes qui nous viennent du monde entier, par l'intermédiaire de ce canal de Radio Campus, voire d'autres canaux dont on pourrait mettre à disposition cette émission, pour faire appel à...
Donc c'est vrai que nous avons déjà identifié des lieux qui conservent d'autres photochromes Lippmann, mais peut-être qu'à Lille, il existerait encore un fonds, puisqu'Auguste Ponceau avait à un moment écrit qu'il avait réalisé 24 ou 26 épreuves.
Oui.
Donc là, il nous en reste 15, donc a priori qui correspondent à ce qu'il a décrit à l'époque. Et autre particularité de ce fonds, c'est qu'après le départ d'Auguste Ponceau, en fait, ces photographies ont été utilisées pour la technique et la science, c'est-à-dire qu'en fait, le sujet capturé n'était pas le centre d'intérêt de l'Institut de physique. C'était vraiment la méthode et montrer en optique qu'est-ce qu'était justement l'onde lumineuse, comment elle était capturée, comment on pouvait projeter ces plaques et aussi montrer un petit peu le mécanisme de l'œil par rapport aux couleurs, comment tout ça fonctionne. Donc c'était vraiment les principes physiques et la physiologie de l'œil qui intéressaient ceux qui l'ont utilisé. Et donc a priori, ces plaques ont même encore été utilisées jusque dans les années 60 pour l'enseignement. Et donc c'est vrai que si on peut retrouver des témoins de cette période ou des personnes qui auraient eu vent à cette époque-là de l'histoire de ces plaques... Ben, nous sommes preneurs de toute information.
Voilà, donc amis publics, cherchez dans vos greniers, demandez à vos grands-mères, arrière-grands-mères ou grands-pères, etc. Si jamais dans ces objets qui sont enfouis quelque part, il n'y aurait pas des choses exceptionnelles à confier à l'Université de Lille.
Ce serait tout simplement formidable. Alors, juste un descriptif de ce qu'est ce fameux photochrome. C'est quelque chose de très épais qui ressemble à une diapositive. Je pense qu'un certain public d'un certain âge a connu le temps des diapositives. Mais il faut imaginer deux diapositives superposées l'une sur l'autre, dont celle qui est sur la partie supérieure est en biais. Voilà. Donc il y a un angle, c'est assez épais, et manipulez plusieurs fois l'objet et vous trouverez certainement un angle, à partir d'un certain angle, sur une partie relativement délicate à trouver, vous allez trouver une image. Et lorsque cette image apparaît, je peux vous le dire parce que je l'ai vécu plusieurs fois, il se passe un phénomène que les anglo-saxons appellent métallique, dans le cas de Lippmann. On est projeté à travers cette diapositive dans un monde extraordinaire, de précision, de couleurs extraordinaires, et qui fait qu'on a l'impression d'être soi-même projeté dans un monde en trois dimensions. C'est une expérience étonnante.
Voilà. Vous en savez plus, chers auditeurs, sur donc ce principe révélé par Lippmann de photographie interférentielle. Un contact, si jamais vous avez une piste, ben vous contactez Radio Campus Lille, campus@campuslille.com. Merci à vous deux.
Merci.
Merci.
Donc, je rappelle vos noms pour bien préciser qui était dans cette émission. Sophie Braun, chargée du patrimoine scientifique de l'Université de Lille, et Bernard Dupont, président de la Société photographique des universités de Lille. Merci et bons travaux, messieurs, dames.
Merci.
Merci. Merci.